Tout d'abord, je voudrais dire que je suis très heureux d'être dans cette salle de la mairie du 16e. J'ai vécu ici pendant toute la guerre, j'ai fait mes études et j'ai eu mon bachot terminant le collège Franklin, rue Franklin, Saint-Louis de Gonzague. Donc, je suis quand même habitant du 16e pendant pas mal d'années. Je voudrais particulièrement remercier M. le maire de sa cordialité. Je voudrais aussi particulièrement saluer toute la très sainte et généreuse communauté orthodoxe antiochienne qui est là. C'est une grande joie pour moi d'être avec vous. J'ai parmi vous de nombreux amis. Et je dois seulement dire que je suis plutôt troublé par les paroles qui ont été dites à mon égard, qui sont d'une part trop élogieuses et d'autre part qui risquent de créer en vous une certaine déception. Cela étant, le titre qui m'a été, je ne dirais pas suggéré, mais pratiquement imposé, s'il vous plaît, c'est « Être orthodoxe dans le monde occidental ». Alors, je me suis confirmé, soumis à ce sujet, mais je vais essayer de ne pas m'y enfermer, de ne pas en être l'esclave. La première chose concernant le monde occidental, n'oublions pas que la Terre tourne et que la Terre est une planète ronde, sphérique. Par conséquent, derrière un Occident, il y a encore plus loin un autre Occident, il y a un extrême Occident, de même qu'il y a un extrême Orient. Et finalement, les extrêmes Orient et Occident finissent par se toucher. Donc nous ne savons pas très bien où nous arrêter. Et je dirais que pour un oriental, que nous sommes quelques-uns d'entre nous ici, il y a des orientaux encore plus orientaux que nous. Parce que nous n'avons pas à faire de cet orientalisme une étiquette et une gloriole. En réalité, être orthodoxe dans le monde occidental, je dirais, il faudrait réduire davantage ce titre, avant tout, car le problème essentiel demeure être chrétien dans le monde. Être chrétien dans le monde. Et l'orthodoxie est une des grandes familles chrétiennes. Et je remercie le Seigneur d'y appartenir, car nous y avons découvert, nous y vivons des trésors infinis de sainteté et de vie, de grâce divine. Mais le monde occidental n'est pas simplement un monde occidental d'ici Europe occidentale ou d'Amérique du Nord. Et par conséquent, par ailleurs, il serait trop facile d'opposer l'orthodoxie orientale, qui est notre privilège, qui est notre identité, à un Occident qu'il faudrait encore définir. De quel Occident s'agit-il, le monde occidental? S'agit-il d'un Occident latin, romain, avec toute l'histoire de la papauté, du siècle? S'agit-il de la Réforme? S'agit-il du siècle des Lumières? S'agit-il du laïcat, enfin d'un monde laïque, sécularisé, oubliant ou perdant les repères essentiels de la relation à Dieu? Certes, il est vrai, l'orthodoxie a une tradition bimillénaire de culture, de sainteté, de martyrs. Tout cela est vrai. Tout cela est important. Mais trop souvent, cela devient superficiel. Cela devient comme un acquis une fois pour toutes. Mais, par conséquent, c'est à partir du terme occidental que je voudrais approfondir notre propos. Pour la conscience chrétienne, d'une part, de manière générale, et non moins pour la conscience orthodoxe, le véritable Orient n'est pas géographique, mais il est spirituel. Le soleil véritable qui se lève de l'Orient pour illuminer et réchauffer notre terre, c'est le Christ, soleil de justice, comme nous le chantons dans le tropaire, dans l'hymne de la nativité du Christ. Ou bien, selon l'évangile de Jean, « Je suis la lumière du monde, la lumière véritable. Celui qui me suit ne va pas dans les ténèbres. Et la lumière, lui, dans les ténèbres, et les ténèbres ne l'ont pas envahi, ne l'ont pas étouffé. » Par contre, l'Occident sera le lieu où le soleil se couche, c'est-à-dire symbole donc des ténèbres qui recouvrent le monde. Quel monde ? Le monde que d'une part Dieu a créé par amour, que Dieu a tant aimé qu'il a envoyé son Fils pour le sauver. Ce monde que Dieu désire arracher au pouvoir du prince de ce monde. Par conséquent, le monde, qu'il soit occidental ou oriental, cette notion même de monde contient en elle une ambiguïté fondamentale qui est particulièrement fortement ressentie dans l'évangile de Jean. Dieu a tant aimé le monde, mais je vous envoie dans le monde, mais vous n'êtes pas du monde. Il y a à la fois une mission dans le monde, mais une distinction fondamentale que notre origine, finalement, notre patrie est ailleurs. Quand donc le chrétien se tourne vers le Christ, à partir du baptême même, lors du baptême, le catéchumène, adulte ou enfant avec ses parrains et marraines, est tourné vers l'Orient. Et le prêtre, le célébrant, lui demande « Te joins-tu au Christ ? Je me joins à lui. » Vers l'Orient, c'est-à-dire symbole de la lumière qui se lève, du soleil qui se lève, symbole du Christ, vers l'Orient véritable. À ce moment-là, je dirais, le chrétien s'orientalise, pourtant tout en rappelant que être Orient, à ce moment-là, n'est pas un privilège des orthodoxes, c'est un devenir, une vocation de tout chrétien. Quand ce même chrétien se retourne vers l'Occident, tout d'abord dans le baptême, le prêtre lui demande « Te renonces-tu à Satan ?» D'ailleurs, ça précède d'abord l'Occident, puis l'Orient. « Renonces-tu à Satan ? Je renonce à lui. » Vous voyez, l'Occident devenant le symbole des ténèbres et le lieu de l'habitat du prince de ce monde. Quand le chrétien, pourtant, se tourne vers l'Occident, mais qu'il est rempli de la lumière du Christ, demeurant oriental, il est appelé à transmettre au monde le message d'amour et de vie. Mais si, tourné vers l'Occident, se fondant en lui, il oublie ce message du Christ, il le relativise ou il le renie, alors il se fond véritablement dans le monde ambiant occidental, ou au contraire, il s'isole et s'enferme dans un ghetto, dans une tour d'ivoire orgueilleuse dans laquelle nous affirmons notre orthodoxie au détriment du monde dans lequel nous sommes plongés. Ainsi, être chrétien dans le monde, c'est porter la lumière du Christ, soleil d'Orient, dans un Occident qui recouvre tout entièrement notre globe terrestre. Il n'y a pas un lieu du globe qui ne soit Occident dans le sens spirituel du terme. Et ainsi, ce monde est tout entier, Orient ou Occident, les pays du Proche-Orient ou de la Russie ou de la Chine ou de l'Afrique ou de l'Amérique du Nord ou de l'Europe occidentale, ce monde est tout entier et toujours à nouveau dans l'attente du message de l'Évangile, cherchant désespérément son identité, son unité dans un processus de mondialisation croissante d'ailleurs et de progrès technologique rapide, de ce progrès et de cette avancée qui nous font transcender les frontières des pays et des continents. Cette transcendance des frontières des pays et des continents souligne bien combien la distinction entre Orient et Occident du passé devient illusoire désormais et factice. Un monde moderne, oui moderne, traversé par des courants contraires, par un nationalisme exacerbé auquel nos églises orthodoxes sont bien loin d'échapper, mais aussi un monde gangréné par un courant profond de sécularisation, un monde qui ignore ou oublie ou rejette ou renie son propre trésor, son histoire chrétienne, son origine et sa finalité en Dieu. Ainsi s'écriait le pape Jean-Paul II venant en France. « France, qu'as-tu fait de ton baptême ?» Cette même question peut être posée à chacun de nos pays de chrétienté, d'Orient et d'Occident, sans exception. Certes, Les termes d'orientaux et d'occidentaux ont une longue histoire. Il ne s'agit pas de l'ignorer, en particulier dans les deux millénaires de chrétienté. Mais il n'est ni crédible, ni possible aujourd'hui de nous enfermer dans ces catégories qui évoquent un trop long et trop dramatique processus d'estrangement réciproque. Le terme « estrangement » est un néologisme introduit dans la pensée œcuménique par le père Congar, qui parlait d'estrangement de l'Orient et de l'Occident, c'est-à-dire d'un éloignement progressif où on devenait incapable de parler une langue commune et de se comprendre. Donc, je disais bien qu'il n'est pas possible de nous enfermer dans des catégories qui évoquent un trop long processus d'estrangement réciproque des deux pôles ou des deux poumons, comme on aime le dire aujourd'hui, de la chrétienté. D'une part, Rome, affirmant sa juridiction universelle et instaurant des diocèses latins sur des terres traditionnellement orthodoxes, y compris à Jérusalem et à Constantinople, tandis que, et à Antioche aussi, bien sûr, tandis qu'au XXe siècle, de nos jours, quasiment, nos parents et grands-parents ont vécu cela par une migration massive des centaines de milliers d'orthodoxes arabes, grecs ou slaves ou roumains, parce que les roumains ne sont pas slaves, bien qu'orthodoxes, se trouvent projetés en terres étrangères, déracinés, meurtris dans leur corps et dans leur âme, orphelins, mais cherchant à maintenir brûlante et brillante la flamme spirituelle de leur foi. Oui, des paroisses et des diocèses orthodoxes s'instaurent peu à peu en ces terres d'accueil. Et j'ai bien prononcé le terme de terre d'accueil. Pour la troisième et quatrième génération dont nous sommes et dont sommes nos enfants, l'Europe occidentale ou l'Amérique du Nord ne sont plus désormais des terres étrangères, même des terres d'accueil, mais nos véritables patries, même lorsque nous sommes encore et nécessairement écartelés entre notre double appartenance, notre double identité d'orthodoxe, d'une part, grec, arabe, slave, roumain, mais en même temps vivant et désirant vivre pleinement la vie culturelle, la vie sociale, la vie politique de nos nouvelles patries. Et c'est ici, bien sûr, que j'aimerais que soit transmis également à M. le maire, M. Tattinger, qui nous a accueillis, qui nous accueille chaque année. J'aimerais rendre hommage et dire toute notre reconnaissance à notre patrie, la France, ici, pour ceux qui vivent en France, qui est devenue pour nos parents et pour nous-mêmes une terre hospitalière où nos enfants ont pu grandir, étudier, s'installer, se marier, s'intégrer pleinement à la culture française, sans pourtant abdiquer ni nos langues, ni nos cultures, ni nos traditions d'origine. C'est ainsi que jetés malgré nous, dans ces terres d'Occident, nous y avons discerné la volonté aimante de Dieu et sa bénédiction pour y vivre, pour y grandir, pour y témoigner de notre foi et des richesses de notre tradition religieuse, sans pourtant, tout en témoignant de notre foi et de notre tradition et de nos convictions profondes, sans pourtant tomber dans un prosélytisme primaire, mais gardant le respect de l'histoire chrétienne de ces pays d'accueil et dans l'ouverture aux églises chrétiennes que nous avons appris à connaître et à aimer, découvrant chez eux des trésors insoupçonnés de sainteté et de sagesse. J'ai eu beaucoup de contacts dans ma vie, à la fois dans mes études et puis ensuite dans mes relations œcuméniques avec les communautés monastiques catholiques, bénédictines ou cisterciennes, avec bien sûr aussi au conseil œcuménique avec les milieux protestants réformés. Je dois dire que la dimension œcuménique de notre vie chrétienne est devenue pour nous, pour beaucoup d'entre nous, pour moi en particulier, une évidence et un impératif d'obéissance au Seigneur lui-même. Des lieux de culte sont sortis de terre comme des champignons après la pluie. chapelle modeste, puis église. Des communautés monastiques se sont fondées un peu partout en Europe, en particulier en France. Des mouvements de jeunesse se sont organisés enfin. Une école de théologie s'est créée au cœur même de Paris il y a plus de 80 ans et a formé des centaines de ministres du culte, prêtres, évêques, même un patriarche, théologiens, catéchètes. J'y reviendrai encore. Ainsi, au bout de 80 ans d'histoire déjà, cette diaspora, on appelle diaspora du terme grec qui signifie la dispersion. Nous sommes tous, d'ailleurs, dans l'histoire du christianisme, nous sommes tous des membres d'une dispersion où nous sommes jetés dans le monde, reflétant et rappelant la réalité de notre unique patrie céleste. Cela étant, nous parlons de la diaspora orthodoxe, particulièrement étant donné qu'au XXe siècle, je disais bien, des centaines de milliers d'orthodoxes se sont trouvés déracinés et, par la force des choses, s'enracinant dans des terres nouvelles. Ainsi, cette diaspora orthodoxe s'organise, se fédère, non sans peine, il est vrai, se structure, en particulier autour de nos évêques, dans l'Assemblée des évêques orthodoxes en France. Donc, nous n'avons pas d'évêque ici parmi nous, mais nous avons en particulier M. Carole Sabat, qui est notre responsable de la communication, c'est très important, de la communication qui reflète toutes les actions et les décisions de l'Assemblée des évêques. La plupart, il est vrai que cette Assemblée des évêques orthodoxes est reconnue par l'État français et elle possède ses entrées auprès des instances gouvernementales. La plupart des patriarcats orientaux y sont représentés, Constantinople, Antioche, Moscou, Belgrade, Bucarest, Tbilissi. Est-ce que j'en oublie l'un ou l'autre ? J'ai nommé, je pense, l'essentiel. Bucarest. Je l'avais dit. Mais aussi les communautés francophones de la diaspora, pour lesquels des problèmes particuliers se posent. Évidemment, la finalité à longue échéance de cette assemblée épiscopale est la création, quand et comment Dieu voudra, d'une structure épiscopale unifiée, d'une église locale. Par ailleurs, et je lance ici un pavé dans la mare, je ne sais pas si ce que je dis là plaira à tous les orthodoxes, mais je pense qu'on ne peut pas totalement dissocier le devenir unifié des communautés orthodoxes en France, en Occident, tendant vers l'établissement d'une église locale. On ne peut pas dissocier tout cela de l'avenir du dialogue œcuménique et de l'attente de notre unité ecclésiale avec Rome. Car les deux réalités sont, nous travaillons de pair dans une sorte d'œcuménisme inter-orthodoxe nécessaire et difficile, croyez-moi bien, et en même temps, par la volonté de Dieu, dans un effort constant, un travail de rapprochement avec les chrétiens. Et les deux vont ensemble. Nous ne pouvons d'ailleurs pas discuter du problème de la primauté romaine sans parler en même temps des problèmes que les primautés locales ou régionales posent dans la vie de l'Église orthodoxe. Mais là, je déborde du sujet qui m'est imparti. Je le disais à l'instant, les églises orthodoxes se sont engagées dans la création du mouvement œcuménique, conscient que les murailles de nos divisions n'atteignent pas le ciel, comme le disait un évêque russe du XIXe siècle. Nous encourageons l'action et la conscience œcuménique à tous les niveaux, dans la recherche d'une meilleure connaissance réciproque, encourageant un véritable dialogue théologique et non plus un esprit de confrontation et de polémique. C'est ainsi que, et j'en suis profondément convaincu, peuvent être touchés et atteints et approfondis, sans animosité quelconque, les problèmes théologiques les plus désespérés, les plus décourageants. La primauté romaine, le filioque, c'est-à-dire la procession du Saint-Esprit, l'uniatisme, ce fameux cactus de l'uniatisme, comme on l'appelle quelquefois. Il faut beaucoup de courage d'honnêteté intellectuelle et de confiance dans l'action du Saint-Esprit afin de s'engager dans les méandres du dialogue œcuménique. Mais je suis convaincu que progressivement, et j'en suis déjà, nous en sommes déjà témoins, un esprit de paix s'instaure et des solutions théologiques s'ébauchent. Des commissions bilatérales de dialogue, il en a été question tout à l'heure, des commissions bilatérales de dialogue ont été constituées, tant au niveau national, en France, aux États-Unis, en Amérique du Nord, qu'au niveau international, après la Seconde Guerre mondiale, pour nous efforcer de remonter le courant de l'histoire. Nous avons inventé un appareil magique qui nous permet de remonter le courant du temps et de remonter, d'en arriver justement au moment où les églises se retrouvaient encore et pour combien de temps Dieu sait, en pleine communion. Remonter le courant de l'histoire, atteindre ensemble le tronc commun précédant nos divisions et nos conflits, opérant ainsi par la mémoire des événements du passé et par le discernement dans ces événements, une véritable thérapie de nos divisions. Il y a certes énormément à dire sur la présence de l'orthodoxie en Occident. Je reprends maintenant le terme Occident dans son acception banale. Il faudrait énumérer quelques-unes des personnalités religieuses, porteurs de la culture spirituelle, philosophes, gens de lettres, des arts, tout cela intimement nourri de la tradition et de la spiritualité orthodoxe. Le XXe siècle a été d'ailleurs une époque de rencontres et de découvertes par l'Occident des richesses de l'orthodoxie que nous-mêmes souvent nous ne soupçonnions guère ou peu. Les représentants de la pensée religieuse orthodoxe ont eu la grande grâce et le privilège de rencontrer quelques-uns des porteurs de la pensée religieuse ou philosophique occidentale. Je pense à Bergson, à Mounier, à Maritain, à Raïssa Maritain non moins que son mari, à Charles Péguy, au Père-Yves Congar, Jean Danielou, Henri de Lubac, Marc Bögner, Pierre Maury et tant d'autres. Cette rencontre fut toujours l'occasion d'un enrichissement réciproque inestimable. Certes, l'Institut Saint-Serge à Paris et son héritier à New York, le séminaire Saint-Vladimir, ont été, et sont encore, je le pense, aux avant-postes d'une réflexion théologique créatrice, à la fois scientifique, mais non moins engagée et enracinée dans la vie concrète de nos églises, inséparable d'une authentique expérience spirituelle, à la fois ecclésiale et personnelle. J'aimerais mentionner ici, bien sûr, le père Serge Bulgakov, fondateur et doyen de l'Institut Saint-Serge, le père Joel Florovski, représentant avec Vladimir Lossky du courant de néo-patristique orthodoxe, le père Nicolas Afanassiev, initiateur du concept d'une ecclésiologie eucharistique qui a profondément marqué les pères du Vatican II, Monseigneur Cassien qui renouvela l'exégèse néo-testamentaire orthodoxe, Léon Zander, un des acteurs les plus engagés dans le dialogue œcuménique. Après cette première génération des fondateurs de l'Institut Saint-Serge, il faudrait évoquer les figures de deux de mes amis proches décédés aujourd'hui, le père Alexandre Schmemann et le père Jean Meyendorf, qui migrèrent tous deux aux États-Unis et furent des figures de proue au séminaire Saint-Vladimir, le premier en tant que porteur d'une vision renouvelée de la liturgie et du culte, le second en tant qu'historien de la théologie byzantine. Parmi les vivants, parlons encore d'Olivier Clément, de Mgr Jean Zizioulas, de Christos Yanaras, de Mgr Callistos. J'aurais pu mentionner encore trois personnes décédées, le père Lev Gillet, le fameux moine de l'Église d'Orient, Elisabeth Bersigel, décédée il y a un an, et toute notre génération actuelle maintenant, vivante toujours, dont je tairai les noms. Je ne peux pas ne pas évoquer ce soir les noms de quelques-unes des figures d'exception de la communauté orthodoxe antiochienne, du Liban, de la Syrie et certes de la diaspora antiochienne dans le monde. Tout d'abord de l'actuel patriarche d'Antioche, Ignace IV, et de son ami de jeunesse, le métropolite du Mont-Liban, Georges Chodre, tous deux diplômés de notre institut. Je suis heureux et honoré de cette longue amitié qui nous a unis dès notre jeunesse. leur témoignage à la fois dans la pensée orthodoxe et œcuménique d'une part, et d'autre part dans le dialogue avec l'islam, dont ils sont parmi les meilleurs connaisseurs aujourd'hui, leur témoignage est inestimable. Rappelons que dans les premières années qui suivirent la Seconde Guerre mondiale, ils furent avec d'autres encore, Albert et Édouard Lacham, Spiridon Khoury, Raymond Risque, les artisans d'un renouveau spirituel dans la chrétienté orthodoxe d'Antioche par la fondation du fameux MJO, le mouvement de jeunesse orthodoxe au Proche-Orient. Soulignons que tout en vivant dans un milieu musulman, ils surent non seulement préserver leur foi et les richesses de notre tradition orthodoxe, mais vivre eux aussi un renouveau théologique et spirituel animant ce mouvement de jeunesse orthodoxe d'où sont sortis et sortent encore les meilleurs théologiens et hommes d'Église du patriarcat d'Antioche aujourd'hui. Pour terminer, j'aimerais essayer de répondre dès maintenant, mais peut-être tout à l'heure avec votre aide d'ailleurs, à la question, y a-t-il, et si oui, quel est le message spécifique, l'apport de l'orthodoxie au monde occidental dans lequel nous vivons, et certes au monde tout court? J'évoquerai tout d'abord trois dimensions essentielles de notre foi et de notre expérience. Premièrement, la victoire pascale du ressuscité. C'est le message fondamental essentiel de l'Église au monde. Soulignons l'actualité de ce message dans lequel se concentre toute la plénitude de l'essence du christianisme et duquel jaillit toute la puissance du message évangélique à travers le temps et l'espace. L'Église nous rend contemporains de cette Pâque du ressuscité et les semences de résurrection germent et éclosent dans nos cœurs et dans nos vies. L'Esprit Saint nous rend contemporains du Christ ressuscité. Toute la vie liturgique et sacramentaire de l'Église sera pas moins qu'une conformation au mystère du Christ mort et ressuscité. Sa mort et sa résurrection constituent la loi même de notre vie et de notre devenir ici maintenant. Nous connaissons tous d'ailleurs l'impact de la célébration de la nuit pascale sur ceux qui peuvent y assister, orthodoxes, chrétiens ou même incroyants. J'ai été particulièrement bouleversé à la lecture, il y a quelques années déjà, d'une lettre provenant des détenus des camps de déportés du grand nord de l'Arctique au fameux monastère des Solovki, devenu un des lieux les plus terribles de détention des croyants pendant la grande persécution des années 30. On y décrivait la célébration nocturne de la vigile pascale dans les casemates où ils étaient là sans chauffage, avec peu de lumière, avec quelques cierges peut-être. Célébration nocturne par ceux dont ce fut peut-être parfois la dernière occasion et la dernière grâce de pouvoir crier que le Christ est ressuscité. Deuxième aspect, deuxième dimension du message de l'orthodoxie, le concept de tradition. Il est essentiel ce concept de tradition dans la vie de l'orthodoxie. Une distinction pourtant nécessaire doit être faite entre la tradition et les traditions. La tradition avec un T majuscule, les traditions minuscules au pluriel. Ces dernières traditions vénérables, certes, mais relatives, locales, parfois provisoires. Dans son essence, la tradition consiste en la transmission du message évangélique dans le temps et dans l'espace, à travers les catégories de pensée, de sensibilité des nations, des cultures, dans ce qu'on appelle une inculturation à la fois importante mais délicate dans la culture de telle époque ou pays. Ainsi se dégageront à travers l'histoire, apparaîtront les grandes familles chrétiennes avec leurs caractéristiques liturgiques, leurs accents théologiques, leur art musical et iconographique d'ailleurs. Mentionnons les chrétiens de l'Irak, ne les oublions pas aujourd'hui. Mentionnons les langues sémitiques, la tradition antiochienne et syriaque, l'orthodoxie byzantine et puis l'orthodoxie slave et roumaine, les familles occidentales, romaines, milanaises, celtiques, hispaniques. Aujourd'hui, une orthodoxie française à son tour se cherche sans ignorer les racines historiques de la chrétienté locale. Il faut préciser ici que nos sociétés modernes sont profondément marquées aujourd'hui par ce qu'on pourrait appeler une dévaluation de la tradition. ce qui prédominait en celle-ci, c'est la, ce qui prédomine en celle-ci, dans la tradition plutôt, c'est la continuité à travers le changement des générations, ainsi que l'autorité dont la tradition est investie pour gérer l'action présente et l'avenir. La modernité, quant à elle, marque une rupture décisive. Par son développement même, elle marque une rupture de la tradition, sa disqualification, que ce soit dans le domaine religieux ou social ou familial ou éthique. Mais la transmission même du dépôt de la foi se fait toujours à la fois en Église, dans la vie et la conscience et le discernement de la communauté ecclésiale vivante, mais aussi et non moins dans une relation personnelle, par une transmission vivante dans ce que j'appellerai, au sens large du terme, une paternité, ou, entre parenthèses, ou une maternité non moins. En Dieu, il n'y a ni homme ni femme, et nous avons non seulement les pères de l'Église, mais nous connaissons aussi les mères de l'Église. Précisons aussi que nous pouvons distinguer entre la paternité spirituelle, au sens strict et personnel du terme, en tant qu'un véritable engendrement en Dieu, et par ailleurs, dans le sens large, par l'impact que peuvent exercer sur chacun de nous les personnes, les saints de tous les temps, les pères de l'Église. Ainsi, ces derniers, depuis saint Ignace d'Antioche, ou saint Irénée, Basile, les Grégoire, Jean de Damas, Grégoire Palamas, les spirituels, Séraphin de Sarov, Siloane de Latos, les saints du passé et d'aujourd'hui, tous ces saints qui sont parmi nous, nous engendrent et leur gène, on aime bien ce terme aujourd'hui, leur gène spirituel se retrouve dans notre propre consistance et dans notre identité. Finalement, cette tradition ecclésiale nous ramène aux temps apostoliques, à l'Église des apôtres et des martyrs, car l'Église est toujours apostolique. Elle est toujours martyrielle. Le terme martyr se traduira par le terme témoin. À l'Église des apôtres et des martyrs, et c'est dans l'Esprit Saint, enfin, que cette transmission s'opère dans la fidélité, sans rien omettre, ni sans rien ajouter. Je dis bien sans rien ajouter, et c'est là que nous autres orthodoxes devons être attentifs à ne pas nous laisser submerger et endormir et bercer par les richesses de notre histoire et de notre culture bimillénaire. Nous devons devenir capables de revenir toujours à l'essentiel, c'est-à-dire à notre message chrétien commun. Troisième notion, la beauté. Ce troisième titre, la beauté, vous étonnera probablement, mais il me semble important de ne pas omettre de notre vision et de l'expérience de l'orthodoxie à la fois la beauté qui émane du culte liturgique, mais aussi cette beauté et harmonie intérieure qui irradie et illumine les cœurs pacifiés. Un des recueils les plus connus contenant les écrits des spirituels orientaux allant des premiers siècles jusqu'au XVe siècle et collationné par Nicodème Lazioryte au XVIIIe siècle s'intitule la Philokalie, c'est-à-dire littéralement, l'amour de la beauté. Toute la grande tradition orientale de la prière du cœur, de l'invocation du nom de Jésus, à travers le combat contre les passions, elle est relatée dans ce recueil qui a été très tôt traduit en slavon, en russe, en roumain et de nos jours, en la plupart des langues modernes, dont en français. Le thème de la beauté est le plus souvent occulté, mis de côté dans nos manuels de théologie scolaire. Et pourtant, ce thème ressort avec force de la louange psalmique de la création, de Dieu qui a tout fait avec sagesse, avec harmonie, avec joie, des paroles de Jésus évoquant la beauté des lilas des champs, avant tout du Créateur lui-même se reposant au septième jour de l'œuvre est belle et bonne qu'il a créée. Cette beauté et harmonie se retrouve à la fois dans le culte liturgique, dans les visages des icônes, mais non moins dans les cœurs et les visages pacifiés et rayonnants de la douce lumière du Christ. Mais parler de l'icône nous pousse à rappeler que la véritable icône est cachée au plus profond de notre cœur, et c'est elle qu'il nous faut retrouver, rénover, restaurer. Ainsi, parler du culte liturgique de l'icône implique leur correspondance intime avec le culte intérieur, avec l'offrande du cœur et l'invocation incessante du nom de Jésus, de ce nom béni que nous déposons sur les êtres et sur la création tout entière. C'est un véritable avant-goût de la luminosité et de la paix du royaume. Mais cette pacification des cœurs, cette irradiation au-delà et en dehors de nos communautés ecclésiales, c'est l'œuvre primordiale et le don du Saint-Esprit, de celui dont saint Séraphin disait « Acquiers un esprit de paix et des milliers trouveront le salut autour de toi ». En conclusion, je parlerai du feu de l'Esprit. Finalement, et en conclusion de cet effort, toujours ingrat, de cerner le propre du message de l'orthodoxie au monde occidental et au monde tout court, j'invoque, comme nous l'avons fait, l'Esprit Saint qui nous régénère, qui nous construit et qui nous conforme à l'image du Christ mort et ressuscité. Cet Esprit qui jalonne notre chemin depuis la naissance jusqu'à la mort. Cet Esprit qui nous construit en communauté vivante et priante. Cet Esprit qui finalement nous renvoie dans le monde pour y porter un message d'amour, de paix et d'espérance. Seul le feu de l'Esprit peut embraser le monde. Je suis venu, dit Jésus, jeter le feu sur la terre. Et combien je veux que ce feu, que ce monde, que cette terre s'embrase. Ne vivons-nous pas aujourd'hui une coexistence douloureuse et difficile entre deux mondes, l'Église et le monde ambiant, deux mondes qui semblent tellement éloignés qu'il semble quelquefois que le message divin ne se communique que difficilement. La faute de cette coexistence douloureuse entre l'Église et le monde, la faute en était le monde seulement. Si le monde est dans l'enfer de l'ignorance, du péché et de la souffrance, nous devons tout de même nous rappeler, tout d'abord à nous-mêmes et au monde ensuite, que les portes de l'enfer que nous côtoyons et qui trouvent écho en nous-mêmes, que ces portes de l'enfer ont été arrachées par la force invincible du ressuscité. Croyons-nous vraiment cela ? Croyons-nous fortement en la victoire pascale du Christ, en la puissance glorieuse et actuelle de l'Esprit vivifiant ? Tel est pourtant le travail de l'Esprit qui nous rend conforme au Christ, qui nous révèle l'amour et la compassion du Père. Par le Christ et par l'Esprit, ainsi, nous remontons au Père. Comme le disait un philosophe russe, Nikolai Fyodorov, au début du XXe siècle, notre programme social, qui peut me dire ? Notre programme social, c'est la Trinité. Cette Trinité est tout entière à l'œuvre dans le monde et à travers chacun de nous. Et revenons donc au titre de cet exposé, ne faudrait-il pas peut-être moins parler d'orthodoxie et davantage de l'évangile de la résurrection, moins nous glorifier et nous prévaloir de nos richesses orientales qui sont si souvent dormantes et inopérantes et surtout être témoins de celui qui est venu non pour être servi, mais pour donner sa vie pour le salut du monde.